Disque de la parole. Une émission où Pierre-Paul Delvaux vous propose une lecture cursive de l'Évangile de Jean avec José Willibald Michaud, moine à Maritsou. Parce que lire un grand texte, c'est être le propre lecteur de soi-même.
Bonjour à tous. Au micro Pierre-Paul Delvaux pour continuer cette lecture cursive de l'Évangile de Jean avec la complicité de José Willibald Michaud ici à Maritsou. Nous avons déjà beaucoup parlé du chapitre 4 de Saint Jean, la entrevue avec la Samaritaine. Aujourd'hui, le Père José va récapituler ce chapitre 4 en insistant sur le rythme septénaire, le rythme en sept temps, qui lui semble tout à fait significatif. Père José, bonjour.
Bonjour.
Eh bien voilà, nous partons dans ce pèlerinage, ce rythme septénaire, où nous allons redire sans doute certaines choses que nous avons déjà évoquées, mais nous le mettons dans ce cadre rythmique très particulier.
Bon, la première étape, me semble-t-il, c'est celle qui ouvre le récit. C'est Jésus, au bout d'une traversée fatigante, harassé, s'assied en plein désert, au bord d'un puits. Il est tenu par une soif intense et il vient chercher une réponse dans cette pauvre réserve d'humaine qu'est un puits creusé contre la soif. Et là, j'ai repensé, un puits est toujours une fête pour l'Ancien Testament. Et je repensais à cette citation du Livre des Nombres, au chapitre 21, « Chantez-le, ce puits qu'ont foré les chefs des peuples. » C'est une fête qu'on chante. Et Jésus s'assied au bord du puits de Jacob. Et ça aussi, cette mention n'est pas du tout indifférente. Jacob a une fortune étrange dans l'Ancien Testament. Dans la Genèse, il passe pour un petit patriarche mineur, un peu bizarre. On le surnomme le rusé, et c'est la traduction de son nom Jacob. Au regard de son père Isaac et surtout de son grand-père Abraham, il passe un peu dans l'ombre. Mais tout soudain, il se réveille à la faveur du passage d'une frontière. Il rentre de Mésopotamie, où il s'était un peu exilé pour fuir la colère de son frère Ésaü, et il doit retourner et le rencontrer. Et ce passage se fait au bord d'un gué, le gué du Yabok, il y a un jeu de mots évidemment entre Jacob et Yabok, et de nuit, il arrive là un soir, il s'arrête, il hésite, et puis il fait passer sa famille et ses troupeaux, il leur fait passer le gué, et lui reste seul sur le bord du gué. Et puis il se risque, quand il entre dans le gué, et là commence une nuit étrange, une nuit de lutte contre une puissance anonyme qu'il ne déchiffre pas tout de suite et qui semble lui barrer le passage. Mais Jacob résiste toute la nuit. Et puis, au moment où l'aube approche, il se risque à interroger son adversaire en lui demandant son nom. « Qui es-tu, puissance anonyme ?» Et il se heurte alors à un refus mystérieux. « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et la question est retournée, et c'est Jacob qui est renommé, réidentifié, clarifié, par celui qui lui fait face. Et ce nom qu'il reçoit, le nom nouveau, peut se traduire ainsi, celui qui fait front face à Dieu. Et c'est un nom qui va devenir le nom même du peuple élu. Désormais, le peuple élu va s'appeler Israël. Et il semble que ce passage réussit, péniblement réussi, ait quand même transformé Jacob. Il est victorieux, il est renommé, il est clarifié, mais il est aussi déstabilisé et blessé. Il cloche de la hanche, comme disait mon ami Pierre Léris. Et Jacob va devenir par là le chef de file de tous ceux qui se sont mesurés, qui ont tenté de se mesurer à Dieu et qui sont restés des blessés d'esprit, comme je les appelle. Les survivants d'une lutte profonde avec le mystère de leur propre identité et de celle de Dieu. Et tous ces blessés de l'esprit gardent la trace, la cicatrice de cet affrontement. Et il me semble qu'ils sont par là les prototypes de tous les combats mystiques. La lutte de Jacob avec l'ange a été un thème favori pour la tradition tant juive que chrétienne. Il y a le célèbre tableau à Saint-Sulpice de je ne sais plus qui encore.
Il y a de la croix qui en fait.
C'est de la croix. C'est peut-être de la croix,
oui,
je crois. Et parmi ces blessés de l'esprit, j'en épingle l'un ou l'autre, plus sensible me semble être Jérémie. Jérémie qui lutte avec Dieu, contre l'appel de Dieu, et je le cite, « Je me disais, dit Jérémie, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Mais alors, c'était comme un feu dévorant, enfermé dans mes os, je m'épuisais à le contenir, mais je ne pouvais le supporter. » Bien après Jérémie, nous retrouvons évidemment l'apôtre Paul et son écharde dont il parle dans la seconde épître aux Corinthiens, mais aussi plus près de nous, des personnages fascinants comme l'idiot de Dostoïevski, le prince Mouchkine, obsédé par la malédiction qui semble l'enfermer, son épilepsie, et qui, en traversant cette souffrance, devient le révélateur de sa génération. Eh bien, Jacob Israël, revenons à lui, restera la personnification du peuple éprouvé. Il faut peut-être lire pour ça dans la seconde partie d'Isaïe, les chapitres 48 et 49, où Jacob fait figure majeure dans le peuple. Alors, est-ce que c'est tout ce passé qui revient à la mémoire de Jésus quand il s'assied épuisé sur la margelle du puits de Jacob? Pour moi, ce serait la première étape.
Et donc, la première étape, c'est nous montre un Jésus qui participe à toute une série de grands symboles. Le puits, c'est la fête, avez-vous dit. Et puis, Jacob est là, tout près d'une frontière,
oui,
et va passer cette frontière. Le passage d'une frontière, ça deviendra un combat
oui,
mystique, dans lequel il est véritablement déstabilisé, renommé, mais donc ouvert vers quelque chose de nouveau.
Vers l'autre.
Et ouvert vers l'autre. Et c'est ce Jésus-là qui va rencontrer cette femme, ouais, cette femme de Samarie.
Exactement.
Et donc, maintenant, la deuxième étape, Père José.
C'est précisément l'arrivée, le surgissement de cette femme à midi, une heure insolite, pour venir puiser de l'eau. Elle est seule, elle sait qu'elle ne rencontrera personne, ou peu, ou bien cherche-t-elle une rencontre et peut-être une aventure. On ne sait pas. Mais c'est cette femme à laquelle Jésus demande à boire. Alors là, je voudrais venir rester un moment sur cette demande, cet aveu de la soif que Jésus fera deux fois dans l'Évangile. Ici, dans le désert, et à la fin de sa vie sur la croix. Et je cite parce que je crois que le passage est important, dans l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 28, « Sachant que tout était consommé, Jésus dit, pour que l'Écriture fût pleinement accomplie, j'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. On fixa donc un javelot, une éponge imbibée de vinaigre, et on l'approcha de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est consommé ». Puis, inclinant la tête, il rendit l'esprit. C'est donc la dernière phrase de Jésus, « Tout est consommé ». On peut évidemment se rappeler ici quelques psaumes. Le psaume 69, par exemple, « Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux me sont entrées jusqu'à l'âme. Pour nourriture, ils m'ont donné du poison. Dans ma soif, ils m'abreuvaient de vinaigre. » Alors, je reviens sur le mot « accompli ». Est-ce que la soif de Jésus a accompli l'Écriture ? Comment cela ? Il me semble qu'il a commencé par épouser la soif humaine et sa pesanteur. C'est le texte que nous sommes en train de lire. Et Jésus, au cœur du désert samaritain, récapitule-t-il toutes les soifs d'Israël ? Ce serait la seconde étape pour moi. Donc, la rencontre insolite avec cette femme, cette samaritaine, et l'aveu de sa soif.
Nous avons vu qu'à la fin de la première étape, il s'ouvrait à quelque chose de nouveau. Et maintenant, on s'ouvre également à quelque chose de fondamental chez l'homme, c'est la soif, justement. Une soif qui est extrêmement profonde, et bien entendu, ceux qui lisent cet évangile ne peuvent pas ne pas entendre la résonance avec le chapitre 19, le « J'ai soif sur la croix ».
C'est deux seules fois que Jésus avoue, fait l'aveu de sa soif dans l'évangile.
Et alors, ce qui est intéressant dans ce que vous avez souligné, c'est que cette deuxième étape, Jésus réellement épouse la soif humaine, épouse quelque chose d'extrêmement simple et profond et fort et, bien entendu, vital.
Donc, ça, au fond, en avouant sa soif, Jésus confesse son manque et révèle son désir. Le mot de désir affleure.
Nous allons, après cette deuxième étape, faire une petite pause musicale.
Thank you.
sur RCF. Nous continuons notre lecture du chapitre 4 de Saint Jean. Aujourd'hui, nous faisons une sorte de récapitulation de cette entrevue avec la Samaritaine. Et le Père Josy souligne ce rythme septénaire. Nous venons de parcourir la première et la deuxième étape. Mais dans cette deuxième étape où Jésus dit sa soif, épouse la soif humaine, dit en quelque sorte son désir, le Père Josy voudrait bien ajouter quelque chose. Il y a quelque chose de transgressif dans ce que Jésus fait, dans ce que Jésus ose, le Jésus libre.
Alors c'est à partir de ce moment-là que nous entrons dans ce qui m'apparaît être la troisième étape, qui ouvre un étrange dialogue. La femme a répondu « Tu me demandes à boire et tu n'as rien pour puiser. » Et Jésus lui répond « Si tu connaissais le don de Dieu, si tu savais qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » Là, de nouveau, un terme décisif, l'eau vive. Alors la femme répond, « Mais avec quoi, Seigneur? Avec quoi me donnerais-tu cette eau? Serais-tu plus grand que notre père Jacob ?» Voilà Jacob qui revient. Et Jésus introduit alors une distinction décisive à laquelle vous avez déjà fait allusion. Il oppose besoin et désir. Le besoin de la femme et derrière ce besoin, le désir. Alors, c'est une vieille distinction dont, je crois, Lacan est l'auteur. Le besoin serait le manque qui s'éteint lorsqu'il est comblé, et le désir, au contraire, ne cesse de se creuser et de s'approfondir lorsqu'il est rencontré. Jésus continue, « Quiconque boit de cette eau, celle du puits, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Elle deviendra en lui une source jaillissant pour la vie éternelle. » Et la femme alors se précipite, « Donne-la-moi, Seigneur, cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus ici pour puiser. » Donc ce qui nous est suggéré ici, dans cette troisième étape, c'est que nous avons peut-être doucement à passer du puits, à remonter du puits à la source. Nous arrivons à la source. Et je crois que c'est la troisième étape, ça.
Mais Père José, en passant du besoin au désir, ce désir qui s'approfondit et qui devient véritablement immense, qui en quelque sorte est presque vertigineux. C'est un désir qui est d'une profondeur extraordinaire et qui quoi débouche, est-ce qu'il débouche sur l'infini?
Ah, sûrement, je crois que c'est ça même la clé de cette distinction, c'est que le besoin est immédiat, limité. Et il s'éteint quand on lui répond. Tandis que le désir est certes l'aveu d'un manque, mais d'un manque qui se creuse et qui s'ouvre indéfiniment. Et lorsque le désir connaît l'une ou l'autre réponse, pas l'une ou l'autre rencontre, au lieu de s'éteindre, il s'ouvre et il s'approfondit jusqu'à l'infini. Je crois que dans tout désir, il y a une trace de la présence de Dieu. Le manque d'être nous ouvre à la présence éternelle.
Et alors nous avons cette merveilleuse image. Nous passons du puits à la source. Oui. Et la source me semble suggérer cette vie qui est jaillissante, perpétuellement jaillissante. Et c'est là que nous pouvons vivre une trace de ce que nous appelons l'infini, une trace de ce que nous pouvons peut-être oser appeler la vie de Dieu.
C'est ça. Et l'eau dans le puits est immobile, celle de la source, est jaillissante, dynamique et nous mène toujours plus loin que nous-mêmes.
Donc finalement, cette vie dans laquelle nous baignons, à condition de creuser notre désir, est une vie quasiment sans limite.
Sans limite, sans limite. Oui, elle nous ouvre à l'infini de l'éternité, oui. Jésus parle de vie éternelle, d'ailleurs.
Il parle de vie éternelle. Et c'est donc ici la troisième étape où nous passons du besoin au désir avec la pédagogie de Jésus.
Oui.
La pédagogie de Jésus qui est tout à fait étonnante.
Étonnante. Qui est prophétique. Enfin, Jésus anticipe sur les découvertes de la psychologie moderne.
Et alors, justement, la pédagogie de Jésus va se manifester ici dans la quatrième étape, parce que là, il y a une sorte de rupture, tout d'un coup, c'est « va chercher ton mari et reviens ».
Donc là, dans le récit, il semble qu'il y ait une rupture presque brutale du dialogue. Donc la femme vient lui dire « mais donne-la-moi cette eau », et Jésus répond « va chercher ton mari ». Alors, je crois que Jésus l'amène, lui propose de quitter le plan du besoin immédiat et se situe et la situe désormais au niveau du désir. Moi, je traduirais la réponse de Jésus comme ceci : va chercher celui qui t'avait été donné pour connaître ton désir et le creuser. Alors la femme répond, mais je n'ai pas de mari. Elle a de fait, elle en fait l'aveu, elle a dispersé son cœur, elle a dispersé son désir et n'en connaît plus que l'errance. Et Jésus le lui a fait reconnaître. Et en même temps, il a ravivé sa vraie soif, son cœur, et elle va dire, il m'a dit tout ce que j'avais fait.
Autrement dit, Jésus, grâce à cette parole étonnante, est arrivé jusque dans le cœur ou dans le jardin secret de cette femme. C'est une parole fulgurante.
Une fulgurante, tout à fait. Mais qui est donc dans la ligne de ce dialogue, elle est profondément cohérente. Alors que à la première lecture, ça semble être une rupture, comme vous disiez tout à l'heure.
Mais je pense que les pédagogues pratiquent ce genre de choses, cette rupture et cet étonnement qui fait qu'il y a dans l'esprit et dans le cœur de celui qui écoute une faille, une faille qui permet justement d'aller plus profond dans sa conscience.
Une faille féconde.
Ce serait donc la quatrième étape. Voilà, Père José, nous sommes déjà au bout de notre entretien de cette fois-ci.
D'accord.
Et nous donnons rendez-vous à nos auditeurs pour la prochaine émission où nous allons parcourir les trois dernières étapes de cet entretien avec la Samaritaine, puisque nous suivons cet entretien selon ce que vous avez souligné, le rythme septénaire. Voilà, à très bientôt Père José, et à tous nos auditeurs, au revoir. Nous nous quittons avec Mozart, un deuxième extrait de sa sonate en mi mineur pour violon et piano, avec Arthur Grumiaux et Clara Askill.